Chapitre 11. Je ne vois pas néanmoins comment l'instruction d'Henry Rexon aurait pu lui faire casser la cuisse, d'autant plus que cet accident lui était arrivé de la manière suivante. Monsieur Horner, dont la santé s'affaiblissait tous les jours depuis la mort de sa femme, éprouvait pour son élève une affection de plus en plus vive. C'était même, à vrai dire, le seul être au monde qui lui inspira de la tendresse. Il était on ne peut plus dévoué à Lady Ludlow, et ne reculait devant rien toutes les fois qu'il s'agissait des intérêts de sa seigneurie. Mais au fond de son attachement pour elle, couvait une sorte d'aigreur contre certaines opinions que Milady soutenait avec une opiniâtreté calme et douce, que ni les raisonnements les mieux établis, ni les calculs les plus justes ne pouvaient ébranler. Je crois même que l'espèce d'amertume qu'il en ressentait au fond du cœur s'était accrue dans ces derniers temps par la fantaisie, le mot lui était échappé, que Milady avait eue de lui donner Miss Galindo pour secrétaire. Toujours est-il que cette opposition fréquente, si elle ne diminuait en rien l'estime et le respect que la maîtresse et l'intendant éprouvaient l'un pour l'autre, empêchait qu'il ne s'y mêlât un sentiment plus affectueux. Et le seul individu, je le répète, qui depuis la mort de Mistress Horner inspira de la tendresse au régisseur, était ce petit Gregson au regard brillant et attentif, aux cheveux ébouriffés qui lui retombaient sur le front et qui le faisaient ressembler à certains barbés mal peignés et farouches, mais aussi dévoués qu'intelligents. Ce gars, inculte, mi-braconnier, mi-bohème, ainsi que chacun se plaisait à le dire, ne quittait pas le silencieux et respectable Monsieur Horner, qu'il suivait partout avec la fidélité passionnée du chien auquel il ressemblait. J'imagine que c'était cette preuve d'attachement à sa personne qui d'abord avait disposé l'intendant en faveur de son protégé, mais je ne crois pas que M. Horner eût jamais éprouvé l'amour qu'il ressentait pour Henry si l'enfant n'avait joint à sa profonde affection une intelligence et une perspicacité peu communes. Le régisseur n'était pas moins silencieux avec le petit Gregson qu'avec les autres, et par cela même il eût été bien doux de se sentir compris immédiatement sans qu'il eût besoin de parler, de voir les miettes de science qu'il laissait tomber, souvent au hasard, recueillies par son petit compagnon qui en faisait un trésor. De trouver sans cesse auprès de lui une âme ardente, pleine de haine pour les personnes qu'il n'aimait pas et d'admiration chaleureuse pour celles qui lui inspiraient de l'estime ou du respect. Il n'avait jamais eu d'enfant et l'amour paternel s'était développé dans son cœur depuis qu'il s'occupait d'Henri. Vous vous rappelez que son rêve était de l'avoir pour secrétaire, afin de lui laisser un jour son poste d'intendant. Aussi la disgrâce où tomba le pauvre Gregson à propos de la lettre qu'il avait lue avait-elle été pour M. Horner un coup plus douloureux que sa froideur ne permettait de le supposer. Il est probable qu'Henri avait reçu à cet égard une réprimande aussi verte que brève, car notre vieux régisseur était dur, même avec les personnes qui lui étaient les plus chères. Mais quelques paroles plus ou moins aigres ne pouvaient diminuer l'affection du gamin, et j'ai entendu dire que le jour même de cette rebuffade, Henri accompagnait M. Horner dans les champs, suivant son habitude. Le régisseur ne paraissait pas remarquer sa présence, dont toutefois la privation lui eût été fort pénible. Il en était toujours ainsi. Jamais M. Horner n'avait prié Henri de le suivre et ne lui avait dit qu'il fût content de l'avoir sur les talons, toujours prêt, au moindre signal, à partir comme une flèche pour s'acquitter des messages qui lui étaient confiés. Jamais il n'avait demandé où l'enfant pouvait être quand par hasard le père Gregson avait besoin de son fils ou qu'une circonstance imprévue empêchait le gamin de se trouver à son poste. Mais les fermiers et les travailleurs prétendaient que ces jours-là, M. Horner était impossible à contenter, que rien ne lui échappait et que la moindre faute le mettait en fureur, tandis que l'on était sûr de son indulgence lorsqu'on voyait l'enfant trottiner derrière lui. C'était du moins ce que disait Miss Galindo, la seule personne qui me tint au courant des nouvelles du village, et c'est elle qui m'apprit les détails de l'accident du pauvre Henri. « Vous savez, ma chère, me dit la vieille fille, que ce petit braconnier s'était pris d'un fol amour pour mon patron. » C'est ainsi qu'elle appelait le régisseur depuis qu'elle lui servait de commis. « La chose est vraiment inexplicable. J'aurais 20 coeurs à perdre qu'il ne me viendrait jamais à la pensée d'en donner la plus petite part à ce bourru taciturne et sévère. Mais tous les goûts sont dans la nature, et ce fils de chaudronnier ambulant s'est fait de lui-même l'esclave, ou plutôt le chien de M. Horner. » Ce qui n'est pas moins bizarre, c'est que le patron, qui jadis n'aurait pas manqué d'envoyer aux trousses du bambin et de sa famille le garde qui chasse les mendiants de la paroisse, le patron, dis-je, est tellement coiffé du marmot que si la certitude de fâcher Milady ne le retenait, il lui ferait apprendre le latin. Il paraît qu'avant-hier au soir, une certaine missive n'avait pas été envoyée avec les autres dépêches. Je ne peux pas vous confier quel en était l'objet, quoiqu'il me soit connu. Service oblige, tout aussi bien que noblesse. Mais vous pouvez m'en croire, c'était une lettre importante, et je suis très surprise que le patron l'eût oubliée. Depuis la mort de sa femme, le pauvre homme n'est plus ce qu'il était autrefois. Bref, il paraissait fort contrarié de son oubli. La chose en valait la peine, d'autant plus qu'il n'avait personne à blâmer. Quant à moi, c'est différent. Je gronde toujours quelqu'un lorsque j'ai fait une sottise. Mais le patron ne pensait pas à cette ressource, qui est vraiment toute puissante. Il ne put manger tant il était soucieux, et l'on voyait à sa figure l'ennui qu'il éprouvait. Le fidèle Bambin s'en aperçut aussitôt, et se levant comme un page de balade, proposa de courir à la poste en prenant à travers champs, ainsi qu'il fait toujours. Le patron donna sa lettre, et il ne fut plus question du marmot jusqu'au lendemain matin. Le chaudronnier croyait que son fils était dans la grange du régisseur, où il couche tous les soirs, et l'intendant s'imaginait que le Bambin était resté chez son père, ce qui était bien naturel, puisqu'il passait devant la porte. « On m'a dit qu'il était tombé dans l'ancienne carrière des Landes. Est-ce vrai ? » demandai-je. « Hélas, oui, cher enfant, » répondit Miss Galindo. « Il arriva que M. Gray, s'étant querellé avec Milady au sujet de ses idées nouvelles, et consterné de ne pouvoir faire à cet égard tout ce qu'il aurait voulu, avait pris un détour pour revenir au presbytère, ne se souciant pas de traverser le village où sa mauvaise humeur aurait été remarquée. C'est fort heureux, ainsi que vous allez voir. Je ne veux pas dire que ce fut providentiel, attendu que je ne suis pas méthodiste. Toutefois, quand il passa près de la carrière, M. Gray entendit un gémissement qui attira son attention. Il crut d'abord que c'était la plainte d'un agneau, tant celle-ci était faible. Mais, s'étant approché, il reconnut la voix d'une créature humaine et descendit en s'accrochant aux broussailles jusqu'à l'endroit où le petit Gregson gisait à demi-mort, ayant la cuisse cassée. Le petit malheureux était là depuis la veille. C'est en revenant dire à son maître qu'il avait mis la lettre à la poste que le pauvre enfant était tombé dans la carrière. Et ses premières paroles, quand il revint à lui, furent... Miss Galindo essaya vainement de retenir ses larmes. « Je suis arrivé à temps, monsieur. Je l'ai vu mettre dans le sac, vous pouvez le croire. Je l'ai vu de mes propres yeux. »« Vous me demanderez, » continua la vieille fille, « comment il a pu sortir de cette carrière ?»« Voilà le fait. » Le vieux gentleman, je n'ose pas nommer le diable dans la maison de Lady Ludlow, n'est pas si noir qu'on veut bien le dire, et il y a beaucoup de bon dans M. Gray. Bien qu'à certains moments, lorsqu'il me fait opposition, je trouve qu'il ne vaut pas la corde qu'il faudrait pour le pendre. Toujours est-il que ce brave jeune homme prit le malheureux Henry dans ses bras, comme s'il se fût agi d'un poupon, alla trouver les marches que l'on a taillées dans le rocher, à l'époque où l'on exploitait la carrière. Déposa son fardeau sur l'herbe, courut au village, revint avec des hommes chargés d'une porte et d'un matelas, et ordonna de conduire le blessé au presbytère, où il le fit mettre dans son propre lit. C'est alors qu'on s'aperçut pour la première fois que lui-même était couvert de sang. Vous savez comme il est faible. Il s'était rompu un vaisseau, et le voici aussi pâle qu'un linge, couché dans un cabinet, tandis que ce petit bohème se prélasse dans le lit du pasteur, où maintenant que sa jambe est remise, il ronfle tout à son aise, comme si la plume et la toile fine étaient son élément. Il est si bien, en vérité, que cela m'impatiente de le voir couché à la place où M. Gray devrait être. C'est là ce que Milady ne cesse de prophétiser. La confusion des classes, le bouleversement de la hiérarchie sociale. « Pauvre M. Gray !» m'écriai-je avec un soupir, en pensant à l'état de faiblesse et de fièvre où nous l'avions vu quelques minutes avant qu'il ne sauva le petit Gregson, et je dis à Miss Galindo que je le croyais bien malade. « Assurément, » répondit-elle, « sa seigneurie le pensait comme vous, c'est pour cela qu'elle lui avait envoyé le docteur Trevor, ce qui s'est trouvé à merveille, car il a pu surveiller cette Anne de Prince et empêcher les bévues du lourdeau. » L'âne en question était le chirurgien du village, et il existait entre lui et la vieille fille une guerre impitoyable. Miss Galindo possédait une foule d'antiques recettes que M. Prince regardait, du haut de sa pharmacopée, avec un mépris que tous les hommes de l'art comprendront. Ils se rencontraient souvent, car ils chassaient sur les mêmes terres, et les querelles étaient parfois si vives que le praticien avait fini par déclarer qu'il n'entrerait plus dans la chambre d'un malade où Miss Galindo serait admise. Malheureusement pour lui, les visites de la vieille fille ne coûtaient rien, non plus que ses drogues. Elles étaient presque toujours accompagnées de bouillon, de tranches de bœuf, etc., médecine réconfortante qui n'était pas sans valeur. Et bien que la chère demoiselle n'alla jamais nulle part sans chapitrer les gens à propos de choses et d'autres, on préférait en général ses services, en cas de maladie, aux soins médicaux de M. Prince. « Il a bien fallu cette fois que le vieil âne toléra ma présence, » poursuivit Miss Galindo. « J'étais arrivée la première. J'avais droit de possession. D'un autre côté, mon prince tenait énormément à l'honneur de soigner notre ministre et de se trouver en consultation avec un grand médecin. Le hasard veut que le docteur Trevor soit l'un de mes anciens amis. » La vieille fille soupira. Je vous dirai plus tard à quel propos. « Et qu'il me traite avec infiniment de respect. » D'où il résulte que, ne voulant pas agir autrement que son chef de file, notre médicastre fut obligé, quoi qu'il en eût, de me saluer jusqu'à terre. Mais on aurait cru qu'il entendait gratter un crayon sur une ardoise quand j'ai dit au docteur que je veillerais les deux enfants. Ce bon monsieur Gray me paraît à peine sorti de l'adolescence, en dépit de la manière dont il défend ses opinions. « Pourquoi passer la nuit, Miss Galindo ? Vous vous fatiguerez horriblement. Est-ce qu'il n'y a personne auprès d'eux ? » Ne puis-je m'empêcher de le lui dire. « On les garde, assurément, » répondit-elle. « Les bons cœurs ne manquent pas. Mais j'ai bien d'autres chats à fouetter. Il faut que je fasse taire la mère Gregson qui pleure auprès de son fils et dont les sanglots troubleraient M. Gray. C'est une potion qu'il faut donner à l'un, des bandes et des compresses à préparer pour l'autre, puis la horde sauvage des frères et sœurs du blessé qu'il faut mettre à la porte. Le père Gregson, dont il faut brider la reconnaissance pour qu'il ne tue pas notre jeune ministre en lui exprimant sa gratitude. Je vous demande un peu qui se chargerait de toute cette besogne, si ce n'était moi. » Miss Galindo n'en était pas moins fort exacte à remplir les devoirs de sa charge. Elle arrivait tous les matins, heure militaire, sans qu'on pût se douter qu'elle avait passé la nuit. Elle était, à vrai dire, un peu plus irascible et surtout plus silencieuse, mais son irritation était facile à comprendre, et son silence n'avait rien de regrettable. Quant à Milady, elle était fort tourmentée au sujet des deux patients. Généreuse et sensible, elle prenait toujours une grande part au malheur dont elle entendait parler, mais dans cette circonstance, l'idée qu'elle et ses pauvres malades ne s'étaient pas quittés, comment dirais-je, on ne peut pas employer l'expression de bons amis en parlant de ce petit bohémien de la comtesse Ludlow. Bref, la pensée qu'elle ne s'était pas séparée d'eux comme elle l'aurait voulu, si la mort avait dû les frapper, donnait à son inquiétude quelque chose de plus vif, de plus agité qu'à l'ordinaire. C'était des recommandations continuelles au docteur Trevor, de ne rien épargner pour la guérison de ces malheureux jeunes gens. Tout ce qu'il ordonnerait, comme le régime, devait être préparé sous la direction de Medilcott et envoyé au presbytère, depuis les sirops et les pâtes, les juleps et les consommés, jusqu'au blanc de volaille, aux conserves, aux analeptiques de toute espèce. Et comme de son côté M. Horner avait eu les mêmes intentions et pris les mêmes mesures, il en résulta que nos malades furent soignés comme des princes. Il fallut nécessairement, puisque M. Gray était dans son lit, qu'un autre ecclésiastique vint officier le dimanche. C'était un homme qui mangeait la moitié des mots, expédiait à la hâte toutes les parties du service et qui trouvait toujours, quelque pressé qu'il fût, le temps d'aller se mettre sur le passage de sa seigneurie et de la saluer mille et mille fois. Je suis certaine qu'il lui aurait été moins pénible d'être réprimandé, voire souffleté, par une comtesse que de passer auprès d'elle sans en être aperçu. Lady Ludlow approuvait certainement qu'on rendît hommage à son titre et à sa qualité. C'était une sorte de tribut qu'elle recevait au nom de la noblesse, tribut qu'elle n'avait le droit de remettre à personne et qu'elle était contrainte d'exiger au besoin. Mais elle avait tant de modestie et de simplicité qu'elle se croyait personnellement si peu de choses qu'elle ne pouvait souffrir les manières serviles de M. Cross, notre ministre par intérim. Elle avait horreur de son sourire et de ses saluts perpétuels, de l'empressement qu'il mettait à l'éprouver, à changer d'avis si par hasard il avait eu le malheur d'émettre une opinion qu'elle ne partageait pas. Milady parlait très peu, comme vous savez, beaucoup moins que si elle eût vécu avec ses égaux. Mais nous l'aimions tant que nous savions interpréter ses moindres gestes. Elle avait de ses mouvements de tête particuliers, de ses façons de contracter ses doigts délicats et souples, qui me révélaient ses impressions tout aussi bien que des paroles auraient pu le faire. Et je compris qu'elle serait fort aise lorsque notre pauvre pasteur reprendrait son service, quitte à le voir s'en acquitter avec un excès de zèle aussi fâcheux pour lui qu'impatientant pour elle. D'ailleurs, si M. Gray ne faisait pas plus de cas des opinions de Lady Ludlow que de celles d'une femme ordinaire, sa seigneurie avait trop de sens pour ne pas trouver infiniment plus de plaisir à causer avec lui qu'avec M. Cross, qui ne savait que répéter ses paroles. Quant à Miss Galindo, elle était entièrement convertie aux idées de M. Gray. « Vous savez, disait-elle à Milady, que je n'ai jamais passé pour être très forte en matière de raisonnement. Je n'ai donc pas la prétention d'avoir été convaincue par la logique de M. Gray. Il y a d'abord à cela un excellent motif, puisqu'il ne parlait pas. Le docteur l'avait positivement défendu, et je ne l'aurais pas souffert en supposant qu'il en ait eu la force. Mais quand je vois un homme, à toute extrémité, s'oublier sans cesse pour ne penser qu'aux autres, être patient et modeste, beaucoup trop, je vous assure. Ne l'ai-je pas entendu s'accuser de négligence et de tiédeur ? » Miss Galindo faisait d'horribles grimaces pour retenir ses larmes et tortillait ses yeux d'une façon qui m'aurait bien diverti s'il n'avait pas été question de M. Gray. « Quand donc, poursuivit-elle, je vois quelqu'un d'aussi généreux, d'aussi parfait que cet excellent jeune homme, je viens à penser qu'il est dans la bonne voie et que je ne peux pas mieux faire que de saisir le pan de son habit, de fermer les yeux et de le suivre jusqu'au bout. D'où il résulte que votre seigneurie devra me pardonner si je prends fait et cause pour l'école du dimanche, et si je vais encore plus loin à cet égard que ce pauvre M. Gray lui-même, attendu que je suis d'une forte constitution comparativement à la sienne, et que j'ai une puissance de langage qu'il est naturel d'employer. J'en préviens votre seigneurie par respect pour le rang qu'elle occupe, et surtout à cause de la bienveillance qu'elle me témoigne depuis si longtemps, bienveillance qui lui donne le droit de savoir la première tout ce qui a rapport à ma personne. Il ne serait point exact de dire que j'ai changé d'opinion, car je ne vois pas plus aujourd'hui qu'autrefois le bien qu'on peut attendre de l'enseignement de l'abécédaire. Mais M. Gray affirme que la chose est bonne, cela me suffit. Je saute le fossé et me voilà du côté de l'éducation. J'ai déjà prévenu ma naine que si elle continuait à négliger son ouvrage pour aller cancaner avec Nelly Mather, je lui apprendrais l'alphabet. Et depuis lors, je n'ai pas eu mot à lui dire. » J'ai tout lieu de croire que Milady fut blessée de la désertion de Miss Galindo, mais elle n'en laissa rien paraître et se contenta de répondre que si les habitants du village désiraient avoir une école du dimanche, elle ne s'y opposerait pas. « Je regrette seulement, ajouta-t-elle, de ne pas pouvoir changer d'opinion avec la même facilité que vous. » Elle essaya de sourire en disant ces paroles, et n'y parvint qu'avec effort. Miss Galindo s'en aperçut, et après être restée pensive un instant. « Votre seigneurie, dit-elle, n'a pas vu M. Gray dans l'intimité, comme je l'ai fait depuis quelque temps. C'est une grande différence. Quant aux habitants du village, ils subissent votre influence en toutes choses, et dès lors, il n'est pas probable qu'ils désirent une école. » « Je n'ai jamais rien fait pour les influencer en quoi que ce soit, » répondit gravement Lady Ludlow. « Tout au monde, » riposta la vieille fille avec vivacité, « j'en demande pardon à votre seigneurie. La chose d'ailleurs est naturelle. Vos aïeux ont vécu dans ce château depuis un temps immémorial et ont toujours possédé la terre que cultivaient les ancêtres des habitants du village. Vous êtes née parmi ces braves gens qui, depuis le jour de votre naissance, vous considèrent comme une reine, avec d'autant plus de raison que votre seigneurie a toujours été parfaite à leur égard. Mais je laisse à M. Cross les compliments qu'il y aurait à vous faire, et j'en reviens à dire qu'au moral, vous menez toute la paroisse. Fort heureusement pour tous ceux qui l'habitent, car ils seraient fort embarrassés d'émettre une opinion s'ils étaient obligés de la formuler eux-mêmes. Il est seulement bien fâcheux que vous ne puissiez pas vous entendre avec ce bon Monsieur Gray. « La dernière fois que je l'ai vu, répliqua Lady Ludlow, je lui ai promis de réfléchir à sa demande. Le meilleur moyen de me faire accepter une idée contraire aux miennes est, je crois, de me laisser tranquille à cet égard et de ne pas m'en parler. » Malgré la douceur avec laquelle Milady avait proféré ces paroles, on sentait qu'elle avait grand-peine à maîtriser son impatience. Je ne crois pas l'avoir jamais vue plus agacée qu'elle ne l'était alors, et cependant, ne voulant pas que Miss Galindo pût s'attribuer l'irritation qu'elle éprouvait, elle ajouta d'une voix de plus en plus douce. « Vous ne sauriez croire combien M. Horner est entiché de ses plans d'éducation. Il en parle à propos de tout. Non pas qu'il fasse de longs discours sur la matière, ce n'est pas son genre, mais il y revient sans cesse. » « Je sais bien pourquoi, Milady, » répliqua la vieille fille. « Henry Gregson, le pauvre enfant, ne pourra plus gagner sa vie par un travail actif, car le voilà boiteux pour le reste de ses jours. Monsieur Horner, qu'il aime plus que tout au monde, après votre seigneurie toutefois, a le projet de continuer l'éducation du pauvre gars, et il se dit en lui-même que si les plans de Monsieur Gray pouvaient réussir, son protégé deviendrait un jour maître d'école. Votre seigneurie, ne voulant pas que l'enfant travaille chez le régisseur, il faut bien penser à autre chose. Quant à moi, j'aurais vivement désiré que votre seigneurie approuvât ce double projet. » Monsieur Horner et Monsieur Gray ont, à ce qu'il me semble, été bien loin dans cette affaire avant d'avoir obtenu mon consentement, répliqua Milady, qui s'était levée pour mettre un terme à la conversation, et qui sortit de la chambre sans expliquer le motif de son départ. « Je n'en fais jamais d'autre, » s'écria la vieille fille, lorsque Lady Ludlow nous eut quittés. « Je suis vraiment stupide avec mes bavardages. Il est bien certain qu'aujourd'hui, la tête des gens va vite en matière de projet, surtout quand celui qui les rêve est un pauvre malade qui ne peut faire autre chose que de ruminer ses plans. » « Milady oubliera bientôt que vous l'avez contrarié, » dis-je avec l'intention d'apaiser la vieille fille. Mais je ne fis qu'attirer sur ma tête les reproches qu'elle s'adressait à elle-même. « Est-ce que Milady n'a pas le droit de m'en vouloir et d'être fâchée contre moi aussi longtemps qu'il lui plaît ?» riposta Miss Galindo. « Est-ce que je me plains de sa seigneurie pour que vous ayez besoin de l'excuser ? Je la connais depuis 30 ans, et s'il lui convenait de me prendre par les épaules et de me mettre à la porte, je ne l'en aimerais qu'un peu plus. Ne venez donc pas vous placer entre nous avec vos paroles de conciliation. J'ai tout gâté en jasant comme une piborgne, et sa seigneurie fait bien de m'en vouloir. Je l'en estime davantage. Adieu, miss. Attendez avant de parler de Milady que vous l'ayez connue, autant que moi. » Et Miss Galindo s'en alla. Je ne comprenais pas bien le tort qu'elle pouvait me reprocher, mais j'eus soin désormais de ne lui faire aucune remarque sur le compte de Milady, car il était facile de voir qu'une vive reconnaissance l'attachait à Lady Ludlow, pour laquelle elle avait un véritable culte. Pendant ce temps-là, Henry Gregson commençait à marcher en boitant dans la rue du village. Il était toujours au presbytère, où il se trouvait plus à même de recevoir les soins du docteur et de suivre le régime indispensable à son rétablissement. Dès que sa guérison serait complète, il devait venir habiter la maison du régisseur. Mais celui-ci demeurait à une certaine distance. Il fallait qu'Henri fût assez bien pour y être transporté. Je crois en outre que M. Horner le laissait volontiers chez M. Gray, dont le peu de force était consacré à l'instruction du petit boiteux. Quant à Job Gregson, le braconnier, le vagabond, jusqu'ici en guerre avec tout le monde, cet homme des bois sans feu ni lieu s'apprivoisait en voyant qu'on était bon pour son enfant. Il s'était levé contre tous parce que chacun le traitait comme un ennemi. Son élargissement de la prison d'Henley, où il était détenu sans motif, avait été le premier acte de justice que l'on eût fait à son égard. Il n'en avait pas fallu davantage pour l'attacher à ceux qui avaient défendu sa cause, et pour qui il se fixa comme ouvrier, dans la commune où jadis il passait en maraudeur. Je n'oserais pas affirmer que les habitants du bourg furent satisfaits de le voir s'établir auprès d'eux. C'était le père de 10 ou 12 enfants dont la réputation était assez mauvaise. L'un de ses fils avait même été déporté comme voleur, et chacun voyait encore le malheureux père, à son retour des assises, traverser le village à grands pas en proférant des cris de vengeance, l'œil en feu et lançant des éclairs à travers les cheveux épars qui lui couvraient la face. On l'avait vu passer, agitant les bras avec désespoir, suivi de sa femme en pleurs et toute chargée d'enfants, et le soir même, il avait quitté sa masure, dont la clé, disaient les voisins, avait été caché dans la terre au pied d'une haie d'épines. Job Gregson avait reparu avec toute sa famille à l'époque où M. Gray fut envoyé dans la commune, soit que le jeune ecclésiastique ignora la mauvaise réputation du pauvre Job, soit qu'il trouva que c'était une raison de plus pour s'intéresser à lui, il eut pour la brebis galeuse une bienveillance dont le résultat fut de transformer le païen grossier, le géant sauvage, n'ayant connu jusqu'à présent que la loi du plus fort, en fidèle esclave de ce faible prêtre, modeste et maladif. Gregson n'avait pour M. Horner qu'une sorte de respect bourru. Il supportait avec peine l'accaparement d'Henri et murmurait tout bas contre cette espèce de monopole qui lui enlevait son enfant. La mère acceptait de meilleure grâce les droits que le régisseur s'était arrogés sur son fils. L'espérance de voir un jour celui-ci occuper une position moins pénible et surtout plus honorable que celle où se débattait son père lui faisait étouffer sa jalousie maternelle. Mais le braconnier avait eu trop de fois maille à partir avec l'intendant pour qu'une entente cordiale pût jamais régner entre eux. Même aujourd'hui, qu'il ne devait songer à M. Horner qu'avec reconnaissance pour toutes les bontés dont son fils était l'objet, il fuyait la vue du régisseur qui, de son côté, avait besoin de toute sa réserve naturelle et de son empire sur lui-même pour ne pas mettre sous les yeux d'Henri la conduite de Job, comme exemple du mal qu'il devait éviter. Nul motif de répulsion, au contraire, n'existait chez Gregson à l'égard de M. Gray. Il avait pour lui un sentiment de protection que lui donnait sa supériorité physique, et admirait le courage moral de cet être débile qu'il aurait broyé entre ses doigts et qui n'avait pas craint de venir lui reprocher ses torts, avec une liberté de langage que personne n'eût osé prendre à sa barbe. Et puis M. Gray lui avait témoigné tant de confiance. Il avait fait appel à ses bons sentiments avec tant de calme et de certitude que le vagabond se serait laissé jeter au fond d'une geôle sans mot dire, plutôt que de lever la main contre le jeune ecclésiastique. Job écoutait les réprimandes du ministre avec le sourire approbateur que Gulliver eût accordé au sermon d'un habitant de Lilliput. Mais quand des paroles audacieuses, le ministre passa au bienfait, Gregson fut complètement subjugué et reconnut son vainqueur. Le plus beau de cette affaire, c'est que M. Gray ne se douta pas de la belle œuvre qu'il avait accomplie et ne vit en lui-même que l'instrument passif de la bonté divine. Il remercia le Seigneur de cet acte de miséricorde, il se prit à aimer le rude bohémien et à lui être reconnaissant d'avoir changé de manière de vivre, mais il ne lui vint jamais à l'esprit qu'il fût pour quelque chose dans le rachat du braconnier. Il y avait environ 3 mois que M. Gray n'était venu au château. L'état de faiblesse où il était encore le retenait au presbytère, et Milady ne l'avait pas vu depuis le jour où elle avait refusé de mettre à sa disposition la grange de Hale dont il voulait faire une école du dimanche. Ce n'était pas la faute de sa seigneurie. Personne ne s'était préoccupé davantage du sort des deux malades, et bien certainement elle serait allée voir M. Gray, ainsi qu'elle le lui écrivit elle-même, sans une entorse qu'elle se donna en glissant dans l'escalier. Nous n'avions donc pas eu la visite du jeune prêtre depuis qu'il s'était brisé une veine en sauvant Henry Gregson, lorsqu'un jour de novembre, on vint dire à Milady qu'il désirait lui parler. Elle était auprès de moi, et je me souviens de l'air étonné qu'elle eut en apprenant que M. Gray se trouvait au château. Elle ne marchait pas encore et dit au valet de chambre d'introduire le jeune ecclésiastique dans la pièce où nous étions. « Sortir par un temps pareil !» s'écria sa seigneurie, en jetant les yeux vers la fenêtre où l'on voyait à travers un épais brouillard les feuilles jaunies du bignonia perdre le peu de sève qui lui était resté. M. Gray s'avança en tremblant. Sa pâleur était extrême et son regard exprimait la douleur. « Qu'y a-t-il ? » s'écria Milady sous l'impression d'un malheur inconnu qui la fit tressaillir. « Qu'y a-t-il, M. Gray ? Vous avez certainement quelque chose d'extraordinaire. » « C'est qu'en effet, quelque chose d'extraordinaire est arrivé, madame, » répondit-il avec effort. « J'ai reçu tout à l'heure la visite d'un gentleman. » « Appelé M. Howard. Il venait d'Autriche, de Vienne même, en droite ligne. »« Mon fils !» s'écria sa seigneurie en étendant les bras comme pour interroger M. Gray. Le seigneur l'avait donné, le seigneur l'a rappelé. « Que le nom du seigneur soit béni !» répliqua le jeune prêtre. Mais la pauvre mère n'eut pas la force de répéter ces paroles. C'était le dernier de ses enfants. Et jadis, Elle en avait une neuf qui la rendait heureuse.